en ce 4 novembre, à rencontre spirituelle, je crois bon de célébrer avec vous Saint Charles Borromée et par le fait même la diaconie Saint Charles Borromée de cet hôpital ou de ce centre hospitalier Saint Charles Borromée sur le boulevard René Lévesque près de Saint-Laurent. Saint Charles Borromée, c'est vraiment un évêque extraordinaire. C'est une vie tellement étrange. La vie d'un évêque qui aurait pu être un très mauvais évêque et qui est devenu un saint. Vous en reviendrez pas. Il est nommé cardinal si jeune et évêque si jeune par le pape qui est son oncle qu'on peut s'imaginer qu'il sera un très mauvais évêque. Non, c'est tout le contraire. Il vivait à cette époque bien étrange du 16e siècle, n'est-ce pas? Il est mort en 1584. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint Charles Borromée est mort très jeune, à 46 ans. Il avait déjà, à 46 ans, accompli tellement de choses qu'on reste pantois, nous qui sommes sur l'autre versant de la vie et qui avons si peu fait. Quand on pense à tout ce qu'il a fait, c'est absolument admirable. Il est né, lui, le 2 octobre 1538, dans la région du lac Majeur, dans le nord de l'Italie. On connaît assez mal Saint-Charles Borromée jusqu'à un certain point, parce que au 20e siècle, chose étrange, il y a plusieurs historiens, de bons historiens, qui ont ramassé des tas de documents pour écrire sa vie, mais ils en ont jamais fait vraiment une synthèse définitive en français, du moins, je n'en connais pas. Ça existe sans doute en italien, puisqu'il était italien, n'est-ce pas, Saint-Charles Borromée. Il était archevêque de Milan, finalement, et cardinal. L'action de Saint-Charles Borromée a été extraordinaire. Il a mis fin, lui, à l'interminable Concile de Trente. Hein. Et il a voulu vraiment réformer son très vaste diocèse. Hein, c'est incroyable la quantité de visites qu'il a faites. Il s'est promené partout. Il s'est donné à son diocèse de Milan, dans le nord de l'Italie. Hein. C'était une action décisive auprès de nombreux évêques autour de lui. Il a réformé l'Église jusqu'à un certain point. Il voulait que l'Église reparte sur la vraie route, là. Cette route qui est en fait quelqu'un. Bien oui, je suis la voie, dit Jésus, je suis le chemin. Or, il l'a remis sur cette route qui est le Christ vécu. Et puis, il a fait remonter l'idéal de son diocèse dans l'amour divin, si on peut dire, au service de Jésus vivant. Saint Charles Borromée a donné, pour sa part, une très forte impulsion. C'était pas des leçons théoriques, mais pratiques. C'était pas un homme des idées qu'on met dans des livres et sur des rayons de bibliothèque. C'était un homme de l'engagement pratique. Il donnait l'exemple. Il a donné l'exemple, oui. Et cet évêque, en fait, un évêque, c'est un vrai serviteur de l'Église. C'est le pape dont on dit, lui, l'évêque de Rome, le premier parmi tous ses semblables et le chef de l'Église. On dit qu'il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Bien, un évêque, c'est un serviteur de l'Église. Eh bien, Saint Charles l'était. Mais il était de famille noble. Il est né, on peut dire, sur le roc. Dans un château fort, qu'on appelait Borromeo d'Arona. Et c'est de là que vient son nom, Charles Borromée. Il mourra d'ailleurs à Arona, à 46 ans. Je vous ai dit que c'est près du lac Majeur. C'est une des belles régions du monde, et une des plus belles régions, évidemment, d'Italie. Il est né donc le 2 octobre 1538, le second fils du comte Gibert et de Marguerite de Médicis, sœur du futur pape Pie IV. Et dès 1550, bon, il a même pas 12 ans, il reçoit, écoutez bien ça, C'est incroyable, les coutumes de cette époque. Il reçoit l'habit clérical. Et, bon, ça, on voyait, quand j'étais jeune, même, on voyait des petits mooks, comme on dit, de 12 ans qui portaient des soutanes. Oui, ça existait dans des petits séminaires perdus en Italie, etc. Et il a reçu les revenus de l'abbaye locale de San Gratignano, sous le patronat de sa famille. Alors, il avait déjà, à 11 ans, 12 ans, des revenus d'une abbaye. Il étudiait à l'université de Pavie. Il est sérieux. Il est studieux. Il est plus solide que brillant. Hein? Il n'est pas nécessairement brillant. Il est avide de livres, mais ça lui arrive de ne pas avoir l'argent qu'il faut, chose curieuse. Où va son argent? Les lettres qu'on a gardées de lui, de cette époque, de son enfance, montrent que c'est un garçon précis, net, volontaire, déjà. À la fin de 1559, il n'est pas très âgé, il a même pas 21 ans, il est reçu docteur en droit canon et en droit civil. En janvier 1560, l'année suivante, c'est un tout jeune homme, 22 ans. Il a 22 ans, je le répète. Il est appelé à Rome par son oncle, le nouveau pape, Pie IV, le frère de sa mère. Il s'y rend. Il a hâte de voir ce qui va arriver. Il n'est pas gêné. Bien au contraire. Et les honneurs pleuvent sur lui. Imaginez, le 31 janvier, il est déjà cardinal. Le même mois où il arrive, à la fin du mois, là, il a 22 ans, il vient d'avoir ses 22 ans. Eh bien, il est cardinal. C'est incroyable. Hein? Il est nommé administrateur du diocèse de Milan avec obligation de rester à Rome. Le pape le nomme aussi administrateur des légations, c'est-à-dire, si vous voulez, des ambassades de Bologne et de Romagne. L'Italie était subdivisée dans ce temps-là. Il est administrateur aussi de la légation des Marches, c'est une autre région d'Italie. Puis il est nommé abbé commendataire de plusieurs abbayes. Ça fait plusieurs émissions où je vous raconte ça. C'est horrible comme l'Église était décadente. Hein? Notre sainte Église catholique, toujours sainte malgré ses épreuves et ses horreurs que ses membres font, l'Église en elle-même demeure toujours sainte. Elle est le corps du Christ. Je peux parler en mal ainsi de l'Église. Mais c'est pas vraiment de l'Église que j'ai dit, je raconte ces choses-là. Ce sont des choses historiques. Ne soyez pas blessés. Le pape Pie IV voulait, lui, un homme dévoué et actif au sommet de son administration. Et puis, c'est comme ça que Charles Borromée, son neveu, devient pratiquement secrétaire d'État. Poste extrêmement important. Pour une fois, on peut dire que le népotisme tombe bien. Qu'est-ce que c'est que le népotisme? Ça revient souvent dans l'histoire de l'Église. J'aime autant l'expliquer pour les rares personnes, j'imagine, qui ne savent pas ce que c'est. C'est l'autorité qu'on accorde à des neveux de certains papes durant le pontificat de ce pape. Et c'est exactement ce qui arrive à Saint-Charles Borromée avec son oncle. Mais par extension, aujourd'hui, le népotisme, ça arrive qu'on utilise encore le mot, c'est un abus d'influence, d'hommes d'État, puis de fonctionnaires, là, qui distribuent des fonctions à leurs proches. On voit ça dans les gouvernements, tant fédéraux que provinciaux, aux États-Unis, partout dans le monde. C'est une horreur. Et alors donc, le pape Paul IV, qui était mort en 1559, qui était austère, zélé, mais trop âgé, avait mis sa confiance, lui, dans son neveu Charles Carafa, une sorte d'aventurier. Mais il faut pas exagérer, toutefois, le contraste là, entre les deux Charles, Charles Borromée et Charles Carafa. Charles Borromée n'est pas encore un saint à ce moment-là. Il met toute son ardeur à marier richement ses sœurs. Mais oui, il avait des sœurs. Il avait eu deux crises morales, l'une dans sa famille par suite des conversations malpropres d'un professeur, puis l'autre, c'était la difficulté qu'il avait de vivre au sein de la cour romaine, qui était assez décadente, la cour du pape, oui. Et de ce dernier malaise, bien, il est sorti quand même affermi, avec l'aide, semble-t-il, d'un jésuite. Et le 4 décembre 1561, il écrivait au nonce en Allemagne, l'ambassadeur du pape, pour lui demander des chiens. Puis il précisait, je désire particulièrement qu'ils soient de grosses chasses. Donc au début, on le trouve plutôt regardant par comparaison avec d'autres cardinaux qui gaspillent leur argent sans compter. Pour compléter sa culture, le jeune cardinal fonde chez lui une académie de ce qu'il appelle les Nuits Vaticanes. C'était une allusion aux nuits qu'on appelait les Nuits Attiques d'un païen du IIe siècle. Et Chaos, c'est le pseudonyme de ce jeune Charles Borromée comme humaniste, commente la quatrième béatitude de... il condamne la luxure, il loue la charité. Hein? La quatrième béatitude, c'est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Hein? Alors, il est déjà pris par le problème de la justice. Mais il lui reste à achever le concile de Trente, qui s'est ouvert en 1545, et son oncle, Pie IV, il réussit en 1562-63, grâce justement au dévouement de son neveu, comme je vous ai dit au début, que son neveu avait aidé à terminer ce concile, parce que Charles Borromée, cardinal, jeune cardinal, assume l'écrasante besogne de la correspondance avec les agents du Saint-Siège, les nonces, qui sont comme les ambassadeurs, là, les légats du concile. C'est... Borromée... passait pour être plutôt simple exécutant que conseiller. Il travaillait même la nuit. Il était tout jeune, puis déjà il était très travaillant. Il sortait de chez le pape avec les réponses à faire. Et le pape revoyait les lettres importantes. Il ajoutait des fois quelques lignes. Et pour ses affaires courantes, eh bien, son oncle, Pie IV, voulait un personnel simple. Il voulait quelqu'un de bien serviable, comme son neveu. Et les cardinaux les plus distingués, comme Morone et Simonetta, bien, le pape les envoyait ailleurs. Et en novembre 1562, le Saint Charles Borromée perd son frère aîné, Frédéric. Alors, est-ce qu'il va quitter l'Église pour assurer ce qu'on appelle la perpétuité de la race, n'est-ce pas, pour perpétuer le nom de la famille? Il en est question dans le monde romain, mais ni Charles ni le pape n'acceptent qu'il soit sécularisé. Il n'en est pas question. Et le 17 juillet 1563, à 24 ans, Charles Borromée est ordonné prêtre. En décembre, donc 6 mois plus tard, il reçoit la consécration épiscopale. Il est déjà évêque à 24-25 ans. Et puis, il restreint son train de maison. Et chose étrange, comme jeune évêque, il augmente ses nuits blanches, ses veilles pour prier, ses jeûnes, ses austérités. Il se refuse tout divertissement, même une innocente promenade. Et les nuits vaticanes qu'il avait fondées se transforment en conférences religieuses. Et en 1564, il y a un bref de son oncle Pie IV qui autorise son neveu, le cardinal Charles Borromée, à faire sortir pour ses travaux les livres et les manuscrits de la bibliothèque vaticane. On n'avait jamais vu ça. Et Saint Charles Borromée, tout jeune, s'exerce à l'éloquence sacrée, malgré une certaine timidité. Je vous le rappelle, Saint Charles Borromée est évêque et cardinal, et il n'a que 25 ans. Et nous verrons la suite tout à l'heure. Dans ce temps-là, l'évêque devait résider dans sa ville, mais Saint Charles Borromée était à Rome, hein, il te rendait des services. Et puis, il avait à Milan un évêque qui était de très grand mérite. C'est un des hommes les plus remarquables de son temps, c'est Nicola Ormanetto, dont je pourrais vous parler un jour, car il avait été formé par l'évêque de Vérone, Matthieu Ghiberti, qui était encore plus fameux, qui a été un très grand réformateur de l'Église catholique au début du XVIe siècle, au temps de la réforme protestante. Mais évidemment que c'est toujours mieux que l'évêque soit sur place, d'autant plus qu'il y avait des influences protestantes qui sévissaient dans le pays. Et Saint Charles Borromée craignait de perdre une partie de son troupeau. C'est comme un berger, un évêque. Hein? Il voulait veiller à son troupeau. Alors il entre solennellement à Milan le 23 septembre 1565. après un voyage effectué comme légat dans l'Italie du centre et du nord. Il a 26 ans. Imaginez, à 26 ans, toutes ces responsabilités-là, c'est étonnant. Hein? Il doit bientôt revenir à Rome pour assister son oncle, le pape, qui mourra. Et là, son oncle meurt et le conclave, les cardinaux, élisent un dominicain, un moine dominicain, Ghislieri, qui prend le nom de Pie V et qui est devenu Saint Pie V. Hein? C'est sous l'influence du cardinal de Lorraine qui a été capable de déjouer les projets de Saint-Charles Borromée lui-même. Alors, Saint-Charles Borromée rentre à Milan en avril 1566, l'année suivante. Saint Pie V lui témoigne de l'estime et de la confiance. De son côté, le cardinal Borromée, qui est bon psychologue, dédaigne pas de chercher à se rapprocher d'un chanoine régulier du Latran, Séraphin Grindelli, qui est né dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, comme le pape, et qui est devenu aumônier quasi omnipotent de Saint Pie V. Alors notre cardinal archevêque Charles Borromée, âgé de 28 ans, va passer le reste de sa vie, quelques 18 ans, dans son grand diocèse de Milan, sauf de brefs séjours à Rome. Et c'est la partie la plus laborieuse et sans doute la plus féconde de sa vie. Un peu comme autrefois Saint-Ambroise, qui est évêque au IVe siècle, soit 1200 ans plus tôt, n'est-ce pas? Eh bien, comme Saint-Ambroise, Borromée est vraiment un chef d'église. Il est à la tête, imaginez, de 15 évêques suffragants, des évêques qui dépendent de l'archevêque, hein? Il a une juridiction sur des terres immenses, sur toute la région de Venise, de Gênes, les terres novaraises et suisses même. Oui, même la Suisse. Et Saint-Charles Borromée avait été nommé en mars 1560 protecteur, justement, de la nation helvétique, comme on disait, la nation suisse. Sur plusieurs cantons, vous savez que la Suisse est divisée en cantons, comme nous, nous sommes en province, et bien sur plusieurs cantons, il avait une juridiction spirituelle, et le pape Pie V, qui est ni politique ni diplomate, n'avait pas les vues profondes et les initiatives énergiques de son successeur Grégoire XIII. Dès 1570, Borromée demande à Rome un nom spécial pour la Suisse. Et Grégoire XIII, quand même, le lui accorde, et c'est l'évêque de Verceilles, dans le Piémont, qui s'appelle Bonomini, en d'autres termes, bonhomme. Et il était bien épaulé par Saint-Charles Borromée, qui a obtenu que ce nonce pourrait écrire directement au cardinal secrétaire d'État à Rome. Mais Bonomini, qui est d'un tempérament difficile, mécontente les autorités locales en Suisse, puis ses mesures de réforme ont été accueillies plutôt froidement à Rome, et Borromée portait vraiment la Suisse dans son cœur, et pour la visiter, pour essayer de régler les problèmes, il va visiter trois vallées, là, du Tessin, puis les cantons allemands. Et tout ça s'étend sur de longues années. Hein. Il est allé jusqu'au bout de ses forces. Il est patient, il s'enquiert des abus, il rédige des ordonnances, il entretient une lourde correspondance. C'est pas drôle être évêque quand on y pense. Hein. Il fait ça pendant des mois, des années pour l'exécution de tout ce qu'il faut faire pour remédier aux abus, aux difficultés. Et les magistrats, les fonctionnaires civils se montrent souvent revêches, mais lui, il reste courtois. Il est souple, il est habile. Il lui arrivait parfois de se redire quand même, Saint-Charles Borromée. Par exemple, contre l'usage de suspendre dans les églises des écussons puis des trophées en mémoire des victoires militaires. Il va jusqu'à lancer l'interdit contre des paroisses qui se rebiffent. Mais un ordre exprès de Rome l'oblige à désarmer. En général, il se montre fin connaisseur. Il sait bien manier les hommes et sa vertu améliore ses dons naturels. Et Saint-Charles Borromée réussit à maintenir catholique une partie de la Suisse allemande. Il favorise donc en Suisse des capucins et des jésuites, et en particulier à Lucerne, à Fribourg. Nous, à Fribourg, on sait qu'il y a beaucoup de catholiques. Hein. On a pu voir ça hier, à la télévision française, il y avait des grandes cérémonies de la fête Dieu à Fribourg, qui ont encore lieu en 1996, d'immenses processions. Or, la richesse avait alors, on peut dire, perverti la chrétienté, du moins une partie du haut clergé. La pauvreté, elle, au contraire, elle avait avili d'une autre façon le bas clergé qui était victime d'un recrutement intempestif. On prenait n'importe qui pour devenir prêtre. Et puis, les supérieurs, les évêques, souvent les abandonnaient dans leur ignorance. Et l'Église a pâti de tout ça. C'était pas drôle. Alors, au temps de Saint-Charles Borromée, il y avait des empiétements assez scandaleux du pouvoir civil sur le pouvoir ecclésiastique. Dans les territoires espagnols, et même dans les États pontificaux, il y avait des territoires espagnols dans les Pays-Bas, en Hollande, dans ce temps-là. Et les évêques avaient pris un peu trop l'habitude de vivre en dehors de leur diocèse. Le clergé se permettait bien des choses avec le pouvoir civil pour en tirer des avantages. Et dans des régions comme la Lombardie, qui était justement administrée par les Espagnols, M. Charles Borromée connaît à plein là, la morgue de ces hidalgos, les Espagnols, leur incroyable prétention. Ce sont des hommes fiers et qui méprisent cet évêque humble. Alors, il fait des contre-attaques pour sa liberté. Et puis, ça embarrasse parfois la cour du pape à Rome, parce qu'il crée des difficultés avec les Espagnols. Mais c'est un évêque solide, Saint-Charles Borromée. Et puis, le pape lui est obligé de ménager le tout-puissant Philippe II. Hein? Et lui qui est, si on peut dire, un grand pouvoir dans l'Église même. Et Borromée s'oppose net à l'introduction dans ses terres, dans la région de Milan, de l'Inquisition espagnole. L'Inquisition romaine, on l'avait depuis des siècles, on y était habitué, c'était beaucoup plus souple, et même beaucoup plus humain, l'Inquisition romaine. Finalement, une bulle du pape supprime une congrégation religieuse et qui crée bien des problèmes. Ce sont les humiliés, on verra ça tout à l'heure. Saint-Charles Borromée réussit à écarter l'Inquisition. Il lutte contre les gouverneurs de Milan. Il va même jusqu'à excommunier. C'est un chef austère, il faut bien l'avouer, mais il paie de sa personne. Hein? Il suffisait de le voir pour sentir ce qu'était la discipline ecclésiastique. Dieu, devant les décadences, il était comme une résurrection. Et Picat, son oncle, le trouve un peu trop mêlé à des ordres religieux récents comme les théatins, qui ont un zèle pour lui un peu outré. Mais finalement, il s'aligne et cet enfant terrible devient petit à petit plus souple. Et il devient moins dur, il est plus modéré. Il se sanctifie petit à petit et on le voit devenir très bon. Et alors, finalement, ces réformes qui sont exécutées d'une main forte avaient soulevé quelquefois des résistances dans le clergé. Et un jour, chez les chanoines de Santa Maria della Scala à Milan, qui avaient été soutenus par le gouverneur espagnol, ils l'ont repoussé quand ils ont voulu entrer dans leur basilique. Et avec les humiliés, là, qui vont être condamnés, c'est une congrégation, il y avait là, dans cette congrégation, un moine qui s'appelait Geronimo Donato, qui tire un coup d'arquebuse sur le cardinal qui est en prière le 26 octobre 1569, étant en prière dans sa chapelle, il l'atteint au dos, mais chose presque miraculeuse, il n'en meurt pas, il n'est pas blessé vraiment, et puis il achève sa prière tout simplement, c'est extraordinaire. Et là, à cause de ça, les humiliés sont justement supprimés. Le prestige de ce grand prince de l'Église, qui est ce cardinal, passionné pour la réforme catholique, rayonne partout, et ça atteint même l'Espagne, ça transforme Philippe II dans son escurial. Il était un détail intéressant, il voulait des auxiliaires intelligents. Il a toujours su s'entourer d'évêques avec du bon sens. Il n'a jamais cessé de chercher à réformer l'Église et à réformer sa propre Église de Milan. Cet archevêque a donc cherché à s'entourer de gens compétents. Et finalement, les jésuites sont arrivés à Milan, ça l'a beaucoup aidé. Mais il a eu des difficultés car il était très autoritaire. Il avait des difficultés même avec les prêtres dits de l'oratoire, la congrégation fondée par Saint Philippe Néri, dont je vous ai déjà parlé. Il écrit un jour, ce Saint Charles Borromée, eux, les prêtres de l'oratoire, les oratoriens, s'imaginent que cette congrégation de pères qui s'établira ici à Milan existe comme membre de celle de Rome, mais qu'elle dépende de Rome. Mais moi, je pense qu'elle doit dépendre absolument d'ici, de Milan, tout en désirant utiliser des pères qui viennent de Rome pour commencer et diriger cette œuvre. Alors, Saint Philippe Néri se fâche et lui écrit: quant à ce souci des intérêts propres que votre seigneurie attribue, j'en demande bien pardon, mais votre seigneurie a la réputation d'être voleuse. C'est ce que disent les évêques de Rimini et de Verseilles et bien d'autres, car quand elle peut avoir un sujet, votre seigneurie n'hésite pas. Que sa seigneurie illustrissime me pardonne si je lui écris avec tant de chaleur. On voit que Saint Philippe Néri n'avait pas la langue dans sa poche et qu'il voulait garder autorité sur les membres de sa congrégation. Il a les mêmes problèmes avec les jésuites. Il décide finalement de fonder lui-même une congrégation, les Oblats de Saint-Ambroise, afin de faciliter les choses. Donc Saint Charles Borromée a son caractère. Mais il est très généreux et très bon. Il crée des sanctuaires devenus célèbres, des séminaires, des collèges laïcs, un refuge pour les femmes prostituées repenties. Il fait adopter des mesures de contrôle contre la fraude et les malversations et les malhonnêtetés. Il organise toutes sortes de confraternités pour sanctifier les laïcs. Et lui-même, il commente volontiers l'Évangile, ce qui ne se faisait pas par tous les évêques dans le temps. Et par les moyens les plus simples, il tire des applications très variées pour que tout le monde puisse comprendre. Mais parfois, son érudition sur la Bible est un peu trop grande, un peu trop lourde. Certains se plaignent. Mais par son exemple, Saint Charles Borromée a su réveiller chez son clergé le goût de l'éloquence sacrée, le goût de prêcher vraiment et de réveiller les âmes, et avec un grand dévouement. Mais il visite les gens, ceux de son diocèse et des diocèses suffragants dont je vous ai parlé tout à l'heure, les plus lointains, les plus hauts, perchés dans les plus hautes montagnes. On raconte que certaines visites duraient, et c'était très très long. Alors, pensez qu'il a visité plus de 1000 paroisses, il a convoqué 11 synodes diocésains et 6 conciles provinciaux. Et dans la lecture du bréviaire, aujourd'hui justement, on nous fait lire une homélie de Saint Charles Borromée qui a été prononcée à son dernier synode. Et il dit au début: « Nous sommes tous faibles, je le reconnais, mais le Seigneur Dieu nous a donné des moyens où nous pouvons facilement trouver du secours si nous le voulons. Voici un prêtre qui voudrait mener la vie irréprochable à laquelle il se sait obligé, qui voudrait être chaste et avoir la conduite digne des anges qui lui convient, mais il ne décide pas d'employer les moyens voulus. Le jeûne, la prière, la fuite des relations mauvaises, des familiarités nuisibles et dangereuses. » Et il dit un peu plus loin: « Veux-tu que j'en t'enseigne comment progresser sans cesse de vertu en vertu? Ici déjà tu étais attentif au cœur, c'est-à-dire l'office, comment tu pourras l'être davantage une autre fois pour que tes hommages plaisent à Dieu encore plus? Écoute-moi bien. Si un petit feu d'amour divin est déjà allumé en toi, ne le montre pas tout de suite. Ne l'expose pas au vent. Garde fermée la porte du four pour ne pas laisser perdre la chaleur. Cela veut dire fuis autant que possible les distractions. Demeure recueilli en Dieu. Évite les conversations frivoles. » Voilà comment il parlait. C'est sympathique. C'est une très belle lecture aujourd'hui. Alors, il sait parler. Il donne donc la pleine mesure de son dévouement à son peuple. Lors d'une fameuse peste en 1576-77, c'est compliqué d'une famine à Milan. Mais il ne faut pas sous-estimer, évidemment, tout le zèle des laïcs, les médecins, les services municipaux, Mais on fait des drôles de choses, on fait des processions. Et sous prétexte qu'on fait des processions où on se rapproche pas trop les uns des autres, on est à 6 pieds les uns des autres, on croit que les germes n'affecteront pas ceux qui nous précèdent. On croyait que la contagion n'agirait pas. si en défilant comme ça, là, on observait les intervalles, comme on disait à l'époque, de deux bras, c'est à peu près 6 pieds. Il est mort, Saint-Charles Borromée, à Milan, le samedi 3 novembre 1584, à 46 ans. C'était le soir. Pour lui-même, Saint-Charles Borromée, qui était d'origine puissante, nommé cardinal très jeune et évêque très très jeune, à 24 ans, il était dur pour lui-même. Il mangeait peu. Il dormait peu. Il ne cherchait aucun confort, aucun luxe personnel. C'était une intelligence claire qu'il avait, Saint-Charles Borromée. Une intelligence d'administrateur plutôt que de penseur. Sa bibliothèque, d'ailleurs, c'était un instrument de travail, pas du tout un espèce de trésor de dilettante. Il priait profondément, et on dit dans les vieux textes qu'il priait largement. J'aime bien cette expression, finalement. Il s'est montré parfois dans ses règlements un peu tatillon, un peu sévère. Mais il est le fruit de son époque, du XVIe siècle. Il reste, Charles Borromée, dans l'Église militante, une des grandes figures de chef. Et j'aime bien ce que son blason portait, un seul mot, humilitas, humilité. Au physique, il était assez grand, il avait de beaux yeux bleus, de grands yeux bleus, un nez aquilin assez puissant, le teint pâle, des cheveux bruns. Il y a une anecdote amusante, jusqu'en 1574, il porte une petite barbe assez courte, rousse, négligée. Puis il ordonne au clergé de se raser, alors il donne l'exemple, il se rase lui-même. Il avait à ce moment-là seulement 35 ans. Une autre anecdote, 17 ans après sa mort, le 4 novembre 1601 à Milan, au lieu de chanter le service accoutumé pour son anniversaire, on a organisé, sur le conseil de Baronius, qui était très respecté à l'époque, une grande manifestation de vénération publique. L'année suivante, et les autres années, ce témoignage a été de plus en plus éclatant, de sorte qu'en 1610, Rome canonise Borromée, donc 26 ans après sa mort. Il obtient très vite un culte populaire, son origine noble, sa dignité de cardinal, son génie réformateur, les œuvres de son zèle pastoral pour le clergé et le peuple, sa charité pour les pauvres, son dévouement lors de la peste, l'ont rendu rapidement cher au peuple chrétien, notamment dans la Hollande, dans les Pays-Bas espagnols, où l'on a fabriqué très rapidement des images très très répandues, où on voyait Saint-Charles Borromée en prière ou en train de consoler les pestiférés. Son influence était grande en France, auprès de Jean-Jacques Ollier, fondateur des Sulpiciens, auprès du cardinal de Bérulle, puis nombreux évêques. C'était un évêque qui était le modèle des évêques. Et en 1690, imaginez, on édifie une statue de 28 mètres sur un piédestal de 14 mètres, qu'on appelait le Gros Charles, le Carlone. Ça a été élevé, ça, près d'Arona, sa ville natale. Ça fait 42 mètres, ça fait 138 pieds, c'est invraisemblable. Hein? Au début de notre siècle, Pie X, le 26 mai 1910, a publié une encyclique en son honneur. Elle contenait quelques mots contre la réforme protestante et contre le modernisme. Ça a soulevé en Allemagne des tempêtes. Et le 9 juin suivant, bon, quelques jours plus tard, l'Osservatore Romano a déclaré que cette encyclique n'avait pas voulu blesser les non-catholiques allemands. Et ce fut là, semble-t-il, le dernier geste vraiment désobligeant d'un pape à l'égard des protestants de façon officielle. Depuis ce temps, on peut dire que les gestes réciproques, officiels, ont été fraternels entre les catholiques et les protestants. Y compris en particulier, souvenons-nous, lors du Concile Vatican II, quand les protestants ont été invités à être des observateurs lors du Concile. Il y a à Montréal un centre hospitalier que nous ne connaissons pas assez. C'est celui qu'on appelait autrefois l'Hôpital du Cardinal. Ce centre hospitalier qui est situé sur le boulevard René-Lévesque, à l'est du boulevard Saint-Laurent, est un endroit qu'il faut connaître. Et aujourd'hui, l'aumônier de ce centre hospitalier, de cet hôpital, Saint-Charles-Borromée, célèbre dans son cœur, le sait-on, le 33e anniversaire de son arrivée à l'hôpital Saint-Charles-Borromée. 33e anniversaire. Et l'année suivante, il faisait naître les équipes Saint-Charles. Ce sont des jeunes, et on appelle ça aujourd'hui la diaconie de Saint-Charles-Borromée. C'est absolument merveilleux l'histoire de tout ça. On peut dire que cet aumônier, le père Valère, de son nom l'abbé Valère Dubé, c'est un animateur, c'est une âme. Ces deux mots-là ont des résonances très près l'une de l'autre, hein? Parce que la fonction de l'aumônier à la diaconie et pour la diaconie, c'est d'être un animateur. Mais il ne fait pas qu'animer sa diaconie, il anime tout l'hôpital et particulièrement les centaines de malades qui y sont. C'est une présence, le père Valère, c'est une âme. Il est nulle part et partout. Il est toujours là. Il a une autorité qui est finalement un pôle, qui assume tout, qui dirige tout. Il est attentif à ce que la vie ne soit jamais bloquée, mais au contraire, dit un texte que je lis ici, mais au contraire, il a toujours été soucieux de voir la vie éclore dans toutes ses merveilles et sous tous les cieux de l'air du Bé, qui est toujours l'aumônier. Avec ses qualités et ses limites, il est la jonction au service de la vie et de la diaconie. Il publie constamment, depuis des années, une toute petite brochure de quelques pages qui s'appelle « La bonne nouvelle ». Il y a un an, le père Pierre Charland, on devrait peut-être dire le frère Pierre Charland puisqu'il est franciscain, parle de la chapelle de cet hôpital en la décrivant ainsi. La chapelle de l'hôpital Saint-Charles-Borromée n'a rien de banal. On s'y croirait par moments sur l'arche de Noé avec des oiseaux, des poissons et des plantes de toutes sortes. Le décor est à la fois sombre et lumineux, mi-baroque, mi-médiéval. Il évoque autant les rencontres souterraines des premiers chrétiens que les grands espaces des églises abbatiales du Moyen-Âge. C'est vrai qu'il y a une certaine ampleur dans cette petite chapelle. Et il dit, lorsque l'on rencontre le maître de ces lieux, l'abbé Valère Dubé, on pense encore à Noé et à Abraham. Abraham, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, car ses yeux d'une rare clarté, son sourire éclatant, perce une imposante chevelure et barbe blanche. Cet homme est soucieux de porter la joie, d'améliorer la qualité de vie des résidents de l'hôpital, dont il est aumônier depuis 1963. 33 ans aujourd'hui, hein? Et le frère Charland ajoute, le service de pastoral de cet hôpital connaît en effet un succès remarquable auprès de la clientèle de l'établissement. Ces hommes et femmes, vivant avec des défis particuliers, que représentent la dystrophie musculaire, la sclérose en plaques, la paralysie cérébrale, diverses malformations physiques, ou une variété d'autres limites corporelles et cérébrales importantes, sont vite devenus pour le père Valère, nos seigneurs les malades. Donc, à partir de 1963, le père Valère s'est employé à créer un milieu stimulant pour les aider à prier, à se maintenir l'esprit, le cœur bien vivant. Et l'un de ceux qu'il a le plus aidé, c'est Claude Brunet. Je serais presque porté à dire Saint-Claude Brunet, qui est décédé, comme chacun sait. Quel homme admirable, quel malade extraordinaire, qui a resplendi dans notre église de Montréal et qui devrait resplendir dans l'église du monde entier. Je le prie souvent. Je pense souvent à lui. Je vais vous lire tout à l'heure, après avoir écouté quelques chants ambrosiens, je vais vous lire ce qu'il pensait de la diaconie. Je vous ai dit que Claude Brunet a parlé de la diaconie. Il a improvisé le texte qui suit, qui a été enregistré et dactylographié, et imprimé même. Ce que je pense de la diaconie. Il me fait bien plaisir de m'adresser tout particulièrement. N'oubliez pas que Claude Brunet n'avait qu'une deuxième année primaire. C'est l'abbé Valère Dubé qui l'a transformé, avec l'aide de bien d'autres personnes, évidemment. Mais il a été comme un père pour Claude Brunet. Il me fait bien plaisir de m'adresser tout particulièrement à la précieuse diaconie de Saint-Charles Borromée, au nom, évidemment, de tous mes compagnons malades. Je vais commencer par dire un peu ce que je pense de la diaconie, et parler aussi brièvement d'une certaine qualité de regard et d'estime envers les malades, que l'on doit avoir autant que possible envers les malades. Ensuite, je poursuivrai en tâchant d'indiquer certaines conditions, à partir toujours des constitutions de la diaconie, de persévérance et d'enrichissement dans un service qui se veut fraternel et joyeux, non seulement au sein même de la diaconie, mais aussi dans la vie sociale de chaque membre de la diaconie. Vous savez, ce sont des jeunes dans cette diaconie. Hein? Vous, les jeunes qui m'écoutez, vous savez pas quoi faire de vous-même. Allez là, vous y trouverez un ressourcement spirituel intense, une confraternité merveilleuse. Allez-y, je continue maintenant le texte de Claude Brunet. Mes premières impressions au sujet de la diaconie, si je ne vous en parle pas à l'occasion, c'est le physique qui m'oblige bien souvent à retourner au travail dans ma chambre. Ce n'est donc pas par volonté de ne pas communiquer avec chacune et chacun de vous, mes premières impressions. C'est de penser que les diacres sont les membres suppléants et des porte-voix pour les malades qui veulent prier bien davantage et bien mieux, et aussi pour d'autres malades qui, eux, ne veulent absolument pas prier, pensent ne pas pouvoir prier, mais qui ont quand même besoin de l'influence tonifiante et combien vitale de la prière. Donc, les diacres, je vous spécifie ici, ce sont pas des vrais diacres là, ordonnés par l'évêque. On appelle ça des diaconies, des diacres, c'est qu'ils sont au service. Donc, je reprends le texte de Claude Brunet. Donc, les diacres font les gestes de la prière, adoptent les attitudes de la prière, disent les paroles de la prière, mais ne font pas cela seulement pour exprimer leurs propres sentiments, mais pour manifester des attentes et des impuissances et des recherches qui sont vécues par les malades. Il faut voir hein, ces jeunes gens qui portent de grandes coules blanches et qui chantent admirablement bien en chant grégorien et qui font chanter cette foule de malades. Oui, la foule chante, ces bouleversants sont en fauteuil roulant ou sur des brancards. Claude Brunet ajoute, pensons à ce que pouvait signifier la présence de Marie, debout au pied de la croix, écrasée, anéantie par la douleur. Et pourtant, elle supportait, elle canalisait, amplifiait la prière extrêmement difficile, la prière imperceptible qui émanait de son fils, qui se tordait sur la croix, en proie aux affres de l'agonie. Donc on sait qu'au moment où l'on est secoué par les convulsions, pris d'assaut par la fièvre et les frissons, on connaît ça à Saint-Charles Borromée, ou bien encore qu'on est tenaillé dans son fauteuil roulant, ou dans son lit par toutes sortes de petits chagrins, par mille et une déceptions et frustrations. Alors, comme la prière est difficile, pour ne pas dire impossible, tellement la douleur morale et physique subjugue l'esprit, le paralyse et le gêne, mais la prière des diacres vient au secours de cette faiblesse et de cette impuissance, de cette souffrance, en se faisant l'expression vivante et forte de l'humble prière du malade, ou encore du désir inavoué de prière de ce malade. En passant, il m'est venu à l'idée tout à l'heure, les paroles de Jésus que l'on connaît bien, « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Sans doute que Jésus avait en tête, lorsqu'il a prononcé ces paroles, des œuvres de haute charité telles que la diaconie de Saint-Charles Borromée. Mais, je voulais faire remarquer en passant, que s'il est vrai que tout ce que l'on fait à chaque être humain, si petit qu'il soit, cela est fait à Dieu, eh bien, l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait à Dieu, comme la prière de demande, la prière d'allégresse, la prière de pardon, de supplication, de louange, d'adoration, tout ce que l'on fait à Dieu rejaillit de quelque manière sur chaque être humain et lui est bénéfique en vertu de l'action universelle et efficace de la communion des saints. Imaginez-vous, dans l'Église, un homme qui a été paralysé à 8 ans, qui n'a fait que 2 années de scolarité, qui dit des choses comme ça, après avoir été grandi au sein de l'Église, par les services admirables d'un prêtre, le père Valère, et par l'aide de cette diaconie, constituée de jeunes garçons et de jeunes filles, de jeunes gens merveilleux, je vous assure, je les connais. Ce sont des jeunes catholiques qu'il faut connaître. Oui, Vous voulez en être membre? Allez-y à l'hôpital Saint-Charles-Borromée. Vous ne le regretterez pas. C'est quelque chose d'exceptionnel dans le monde entier. C'est au 66 Est Boulevard René Lévesque. 861-9331, poste 214. Je vous rappelle qu'il y a le messe le dimanche à 10h15. Allez-y un peu plus tôt. Prenez soin des malades. Apprenez à prier avec eux, à les aimer, à les secourir, allez leur rendre visite. Et vous avez aussi l'office en chant grégorien le mercredi à 20h le soir, pour ceux qui ne peuvent pas y aller durant le week-end. Et en jour de semaine, c'est à 15h, sauf le jeudi. Vous pouvez vous confesser, là. Vous pouvez vivre dans le silence de la chapelle, prendre soin des malades, vivre votre christianisme dans un lieu exceptionnel, à Montréal, auprès de l'abbé Valère Dubé, le père Valère, qui célèbre aujourd'hui 33 ans de dévouement sans borne auprès de ses malades, entouré de beaucoup de bienfaiteurs qui ne font pas partie de la diaconie, de gens qui font beaucoup de bien dans cet hôpital et qui aident aux soins de ces malades, souvent maltraités, mal servis, malheureusement, à l'occasion. Au Saint-Charles-Borromée, évêque au cœur de feu, nous te le demandons. Fais que cette église de Montréal soit vivante du même esprit que le tien. Que nous soyons toujours fidèles à l'Évangile. Nous te le demandons, intercède auprès de Dieu, afin que nous ayons tous le vrai visage du Christ. Amen.